France Info.
Bonjour Yves Sente.
Bonjour.
C'est à 6 ans que vous êtes tombé amoureux de la bande dessinée en recevant un cadeau, un exemplaire de Tintin au Congo. Vous avez griffonné, dessiné, écrit pour le plaisir avec une envie cachée de pouvoir un jour créer vos histoires. Alors oui, vous avez voulu être avocat puis diplomate pour voyager et écrire des romans le soir à l'instar de Paul Claudel ou Paul Morand, mais l'appel de la mine et votre imaginaire a été plus fort que tout. Une annonce plus tard et vous voilà rédacteur en chef par hasard de l'hebdomadaire Hello BD. Aujourd'hui, vous signez le scénario du dernier album de la série des aventures de Black et Mortimer, La menace Atlante chez Dargo, d'après les personnages évidemment d'Edgar Jacobs, avec la complicité du dessinateur Peter Van Nongen qui succède avec brio au regretté André Julliard, avec sous votre impulsion et imagination une suite assumée de l'énigme de l'Atlantide, la planète aux trois soleils de 1955, un bel hommage rendu quand même 70 ans plus tard. Sacré Paris quand même, Yves Sente.
Sacré Paris, en effet. Surtout que l'album L'énigme de l'Atlantide fait partie du cœur mythique de l'œuvre de Jacobs, qui n'est pas grande, mais il y a quelques albums avec la marque jaune évidemment, le mystère, la grande pyramide, l'énigme de l'Atlantide fait partie du cœur de l'œuvre et c'est de la ligne claire pure. Et c'est un album qui m'avait aussi marqué dans mon enfance, puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup à lire. Et c'était Black et Mortimer, c'est une des rares bandes dessinées que je ne parvenais pas à 10 ans à lire en une fois. Il fallait au moins s'y mettre à deux jours. C'était déjà l'approche du roman, en quelque sorte. Et c'est une histoire, évidemment, qui touche au thème de la science-fiction et qui m'avait beaucoup marqué. Et l'ayant relu après, beaucoup d'années après, j'avais remarqué quelques cases, quelques dialogues donc écrits par Jacobs à l'époque, où le prince Icare, prince des Atlantes, parlait déjà de leur régime végétarien, de leur énergie qui fonctionnait au nucléaire, puisqu'ils vivaient sous la terre dans cette Atlantide secrète. Et en le relisant, je me suis dit mais que ce thème était finalement d'actualité, que Jacobs avait abordé des choses qui nous parlent encore aujourd'hui, 70 ans après, effectivement, et que ce récit laissait quelques trous, ne répondait pas à toutes les questions qu'on avait terminé le récit. Blake et Mortimer avaient évidemment sauvé le monde, comme d'habitude. Mais il y avait, en Atlantide, on voyait des problèmes qui restaient latents et qu'ils ont dû emmener avec eux, quelque part. Par ailleurs, qui était devenu Ulrich à la fin de l'énigme l'Atlantide, personne ne le savait. Magon, le grand méchant de ce récit-là, on ne sait pas très bien non plus. Donc il y avait à peu près tout, et les thèmes, et les portes ouvertes pour me donner envie de faire une suite. Donc je me suis lancé dans ce pari, avec évidemment l'accord et le soutien de l'éditeur. Donc tout allait bien.
Effectivement, vous avez repris des protagonistes initiaux. Certains, on les pensait morts, d'autres, on les imaginait partis très très loin sur d'autres planètes. Donc effectivement, on est à la fois terrorisés, en même temps heureux de les retrouver. Je pense au Herr Doktor Grossgabenstein, Théodos, à Comte Arcos, à effectivement à Ulrich. On a l'impression d'ailleurs que vous avez un lien particulier avec cette marque jaune quand même.
J'ai un lien particulier avec tous les personnages de la série. Bon, il y a trio, évidemment, Blake, le chef du MI5, Mortimer, qui est un grand scientifique, qui est un peu touche-à-tout. Et puis Ulrich, qui est effectivement le méchant récurrent que Jacobs avait tenté d'abandonner dans le piège diabolique, mais que des centaines, voire des milliers de lettres de lecteurs outrés l'avaient obligé de remettre en selle pour les albums suivants. Et depuis, c'est devenu une tradition. Il faut qu'il soit présent, peut-être pas à chaque album, mais en tout cas très régulièrement. Et ce sont des personnages auxquels on s'attache, tantôt bon qu'au mauvais. Un bon mauvais, on s'attache à lui aussi. Et je tenais effectivement à redonner un rôle à tous ces personnages de l'énigme de l'Atlantide, Magon y compris.
Est-ce que justement le pouvoir de la bande dessinée ne se trouve pas à cet endroit, de voir des personnages devenir presque vivants aux yeux des lecteurs ?
Je crois que la particularité de la bande dessinée, c'est que quand on accroche enfant, très jeune, on s'attache très profondément à certains personnages, on les croit vivants. Quand on devient adulte, on lit une fiction, que ce soit un roman, bande dessinée, ou on regarde une fiction au cinéma, à la télévision. Quelque part, il y a une forme de détachement. Notre maturité fait que dès que la lecture est finie ou dès que le film est terminé, on revient vite à la réalité. On se dit, bon, tout ça était une bonne histoire, espérons-le, mais enfin, ce n'était qu'une histoire. Alors que quand on est enfant, les personnages continuent à nous habiter, on fait des rêves, on s'imagine qu'ils sont peut-être vrais, qu'ils vivent quelque part, qu'on aimerait bien les rencontrer. Enfin, l'imaginaire de l'enfant pousse à tout ça. Et donc, ce sont des personnages qui s'inscrivent vraiment, je pense, très profondément en nous. Je rêve toujours de rencontrer le capitaine Haddock dans une occasion, quelle qu'elle soit, ou Blake et Mortimer, bien entendu. Je crois que c'est ça qui apporte cette force à la bande dessinée, et je suis toujours surpris, comme tous mes confrères auteurs, de constater qu'aujourd'hui, 2025, le lectorat de Blake Mortimer, c'est souvent des gens qui ont 40 ans ou plus. Il y en a qui ont 80 ans aujourd'hui et qui ont lu aussi, eux aussi Blake Mortimer gamin. Et quel que soit leur métier, leur fonction dans la vie, on rencontre de tout en dédicace. On voit toujours cette petite lumière qui s'allume dans les yeux, quelle que soit la génération. Ah, Blake Mortimer, où allez-vous les emmener la prochaine fois? Que vont-ils faire? Etc. Et donc, c'est cette part d'enfants, de ces lecteurs, quel que soit leur âge, qui remonte. C'est une force inouïe que la bande dessinée véhicule et que peu d'autres médiums véhiculent avec cette force-là, je crois.
Comment trouve-t-on le point d'équilibre, finalement, entre le fait de poursuivre une œuvre qu'on n'a pas créé et le fait de proposer ses propres histoires à travers des personnages justement qui à la base n'étaient pas les nôtres.
Je vais de nouveau répondre en partant de l'enfance. J'avais 13 ans que j'avais lu tous les Tintins et à peu près tous les Blake Mortimer puisque tous ces albums existaient déjà, donc je pouvais les louer en bibliothèque, j'en recevais à Noël, aux anniversaires, etc. Et je me souviens que quand j'ai lu mon dernier Tintin à 13 ans, et quoi, c'est fini, j'en veux d'autres. Et Blake Mortimer, c'était pareil. Il y avait encore moins d'albums que dans Tintin, il y en a Jacobs en a écrit 11 ou 12, grosso modo. Et donc, j'avais vite tout lu. Et je me suis dit, mais ils auraient pu encore faire ça. Et quand des années après, on va passer les hasards de la vie, j'apprends que l'éditeur est en train de chercher une deuxième équipe, effectivement, j'ai envoyé un scénario, enfin un synopsis détaillé anonymement, et l'éditeur l'a retenu.
L'histoire est folle, d'ailleurs.
Oui, c'est une histoire vraie, une belle histoire vraie. Je l'avais envoyé anonymement. S'il avait dit, bon, ça ne m'intéresse pas ou c'est pas bon, point, ma carrière s'arrêtait là. Mais bon, il a bien apprécié le récit, c'était la machination Voronov, qu'il a fait lire à André Juillard, immense dessinateur, malheureusement nous a quitté l'année passée, mais avec qui j'ai eu la chance de réaliser 8 albums. Et André Juillard l'a apprécié, il a dit « Ah, cette histoire-là, je veux la faire ». Et donc c'était le début d'une collaboration, puisque après, j'ai beaucoup discuté avec André, d'album en album, on se dit « Tiens, où est-ce qu'on pourrait les emmener? Qu'est-ce qu'on pourrait faire découvrir ?» C'est d'ailleurs André Juillard qui m'avait suggéré l'idée de plonger dans leur passé pour un peu nourrir la psychologie des personnages. Et coup de chance, Jacobs, qui avait écrit son autobiographie, un opéra de papier, avait, dans cette monographie, avait écrit une biographie succincte de ses personnages, dans laquelle il dit, lui, que Mortimer, par exemple, est né à Simla, en Inde, où son père était fonctionnaire dans l'armée britannique à l'époque. Après, il a fait tel type d'études. Pareil pour le passé de Blake. Et de toutes ces informations, rien n'était jamais sorti dans les albums de Jacobs. Donc, la suggestion d'André était excellente. J'ai plongé dans ses biographies et j'ai essayé d'en retirer tous les éléments qui pouvaient nourrir la suite de l'œuvre, tout en respectant l'œuvre initiale de Jacobs, puisque c'est lui-même qui nous avait donné ces éléments. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé, et à chaque album, c'est le même défi, essayer de donner aux fans un album qui, comme moi, enfant, ils auraient aimé lire en plus, mais en le modernisant un petit peu à la marge pour qu'en 2025, quand on le lise, les thèmes renvoient à l'actualité d'aujourd'hui et le type de narration soit un tout petit peu plus moderne. Parce que je pense que si on donnait un album écrit véritablement à la manière des années 40 ou 50, aujourd'hui, ça tomberait peut-être un peu des mains. Il faut un peu moderniser.
La menace Atlante raconte comment le professeur Mortimer se voit confier de faire un rapport sur l'approvisionnement de son pays, donc l'Écosse, en énergie, avec comme mission de proposer des énergies propres et peu polluantes. Ce qui l'intéresse, c'est la géothermie. Il balaie d'un revers de main un certain nombre d'ailleurs d'énergie. Est-ce que la BD n'a pas cette possibilité de passer des messages et de parler des défis incontournables et essentiels de demain qui ne sont pas forcément entendus autrement?
C'est possible, c'est même fort possible. En tout cas, dès le début du journal Tintin, donc né en 46, sous l'égide de Raymond Leblanc, qui était le fondateur des éditions du Lombard, et de Hergé, qu'il avait réussi à convaincre de le suivre dans l'aventure, puisqu'il avait besoin du nom Tintin pour le magazine. Le slogan interne était « Apprendre, éduquer, tout en distrayant ». Et toutes les bandes dessinées de l'époque, que ce soit Tintin, Blake Mortimer ou Alix, par exemple, qui paraissait aussi dans le journal Tintin, étaient très documentées, finalement. En tant qu'enfant, c'est ça qui me plaisait, et c'est ça aussi qui faisait que les parents ou les professeurs acceptaient du bout des doigts qu'on lise de la bande dessinée, parce qu'ils se rendaient compte que beaucoup de ces bandes dessinées étaient, en fait, très bien documentées, et que le gamin qui se distrayait apprenait quand même par la marge. Et c'est ce qu'on essaye de poursuivre, cette tradition-là, dans Blake et Mortimer. Mortimer. Ça, c'est un des codes, c'est d'essayer de faire en sorte que tous les récits, même de science-fiction, soient crédibles et soient étayés par une bonne documentation.
La géopolitique, à l'intérieur de cet ouvrage, prend toute sa signification. On a effectivement, dans cette histoire, ce sentiment que Jacob savait ce côté visionnaire et qu'il avait déjà vu un certain nombre de choses, un peu comme pouvait écrire Victor Hugo, finalement, aussi. Il voyait des choses à une autre époque, mais qui leur semblaient évidentes.
Et pour moi, Jacob fait partie de la tradition qui a commencé avec Jules Verne. Pareil, c'est de la fiction. Et puis finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'à peu près tout ce qu'il avait imaginé a fini par se réaliser. Chez Jacob, il y a quelques thèmes qui sont également de la pure fiction, anticipation au moment où il les réalise, qui sont devenus vrais aussi. Après, j'étais très influencé par un romancier comme Michael Crichton, qui, pareil, part de la réalité des connaissances scientifiques ou géopolitiques d'aujourd'hui, et puis finalement qui postule. Le rôle du scénariste ou du romancier, pour moi, c'est de se dire « et si ?». Un peu comme quand on est gamin, on est à l'école et on se dit « et on dit que ? Et si on disait que ? Et toi, tu es ceci, et moi, je suis le cow-boy, et toi, l'Indien, ou que sais-je ?» Et on imagine. Et finalement, quand on a la chance plus tard de devenir scénariste, romancier ou réalisateur, que sais-je, ben finalement, c'est cette grande joie de pouvoir se dire « et si ?» et de mettre en scène réellement le « et si ?».
Vous nous offrez un regard sur l'égoïsme humain, sur la difficulté de survivre quand on est sans papier, étranger. C'est une scène de cet ouvrage qui est, à mes yeux, très importante. C'est ça aussi, être scénariste, c'est assumer un engagement.
C'est assumer un engagement sur des convictions personnelles,
humain.
Ça, de toute façon, parce que je ne pourrais pas écrire quelque chose qui ne me correspond pas. Il se trouve que les valeurs véhiculées par Blake et Mortimer, de manière générale, je les partage puisqu'elles ont fait partie de mon éducation et que je pense que nos deux héros sont profondément humanistes, effectivement. Et dans ce récit, je trouvais qu'il fallait conclure un élément qui existait dans l'énigme de l'Atlantide mais qui n'était pas achevé, à savoir que l'empereur des Atlantes, le Basileus, était un autocrate. Et déjà dans l'énigme de l'Atlantide, il y a une révolte de barons qui se fomente. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que le pouvoir soit plus partagé, etc. Donc je me suis dit, mais ça n'a pas été achevé. Jacob n'a pas eu la place ou le temps d'aller au bout. Peut-être que l'époque ne permettait pas de développer des thèmes aussi politiques, même si je crois que l'énigme de l'Atlantide était un album politique, enfin le plus politique de la série. Et là, je me suis dit, là aussi, c'est l'occasion de le faire, de rendre justice à la chose. Et d'ailleurs, à la fin du récit, enfin sans dévoiler toute la fin, le Basileus est confronté à ses propres contradictions, et ses opposants finissent par faire alliance avec lui, mais en lui faisant promettre qu'ils allaient se diriger vers une meilleure démocratie en Atlantide.
On a effectivement la démocratie, l'information, la désinformation, on a des apparitions de mirages russes à des endroits, entre guillemets, illégitimes, et il y a aussi un regard sur l'information générale, puisqu'on parle de l'importance de bien vérifier ce qu'on propose, ce qui est votre cas. Vous avez la dent dure, par moment, avec l'information et les médias. Ça aussi, c'est un regard sur comment on consomme l'information, comment on se nourrit.
Oui, mais comme le reste, comme les autres sujets, je voulais le raconter en filigrane. Je ne veux pas que ça prenne le dessus sur l'aventure ou sur les actions, parce que sinon, ça deviendrait un essai, et ce n'est pas le but d'une bande dessinée, enfin pas de celle-là en tout cas. Mais oui, je pense que Blake et Mortimer, aujourd'hui, doivent avoir un regard sur l'information, sur l'écologie, sur la politique. Sinon, ils ne seraient jamais que deux petits bonhommes de papier qui sauvent le monde à chaque album, et je pense qu'ils sont plus que ça, et dans la tête des gens, et dans leurs souvenirs, et dans leur avenir. Je pense que la série doit évoluer vers un côté plus proche de par leur fonction. Il y en a un qui est chef du MI5, je disais, l'autre qui est scientifique, et Dieu sait si aujourd'hui le monde est régi d'une part par les avancées fulgurantes de la science, très dangereuses si elles ne sont pas canalisées, et par, on le voit bien, les soubresauts géopolitiques qui n'arrêtent pas de rebondir. Je veux dire, dans le temps, quand Jacobs lance sa série, donc c'est après la Deuxième Guerre mondiale, on est parti pour une période de guerre froide où, quelque part, le contexte géopolitique ne bouge pas, grosso modo, jusqu'en 89 et la chute du mur de Berlin. Donc des centaines, des milliers d'auteurs, que ce soit en bande dessinée ou en roman, travaillent dans un cadre finalement assez simple. Il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a les communistes, il y a les libéraux, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est mouvant tout le temps. On ne sait plus très bien comment définir tel régime ou tel autre et combien de temps va-t-il tenir, etc. La difficulté, c'est de parvenir à parler de ça tout en en parlant à travers une série qui se déroule dans les années 50 où le contexte n'était pas le même. Donc c'est un équilibre un peu délicat, mais j'essaye de temps en temps d'en sortir et de faire des allusions au monde d'aujourd'hui.
Ce qui ressort, c'est le mot confiance, tout simplement. On a confiance en Blake et Mortimer. parce qu'ils sont voilà, très sérieux, ils sont factuels. Ça aussi, c'est un point d'ancrage dans votre écriture.
Ah, ce sont des, oui, des personnages idéaux, fatalement. On ne leur connaît pas beaucoup de défauts. Encore qu'au début du récit, pour la première fois, je mets quelques soucis de santé provisoires.
Vous les rendez mortels.
À Mortimer, dû à certains abus de sa vie quotidienne. Tout le monde sait que...
Il aime le chéri.
Son âge fume encore, ils apprécient le whisky ou le gin. Donc, à consommer avec modération, lui dit le docteur Vernet dans son célèbre Center Club. Mais voilà, il faut les rendre aussi plus humains, plus proches de nous à travers ces détails de la vie aussi. Je crois que c'est ça qui fait qu'on va continuer à les apprécier. S'ils étaient parfaitement parfaits, si je puis dire, une distance s'installerait qui pouvait fonctionner de nouveau dans les années 40 ou 50. Aujourd'hui, je crois qu'on doit se sentir un peu plus proche des personnages en leur donnant quelques légères failles qui me parlent à moi.
J'ai le sentiment qu'à travers tout ce que vous avez pu construire, à travers Blake et Mortimer, vous avez continué à faire grandir ce petit garçon que vous étiez en gardant ses yeux d'enfant. Blake et Mortimer auraient-ils par hasard pu être les professeurs que vous auriez aimé avoir?
Ah, mais j'ai eu des professeurs comme ça. J'ai eu des professeurs passionnés en humanité, donc l'équivalent des années de lycée ici en France. Et je crois que les bons professeurs sont essentiels dans la vie, pour n'importe qui, à n'importe quelle époque. Et j'en ai eu d'excellents. J'avais de la chance d'être dans un collège à Bruxelles, ça s'appelle le Collège Saint-Pierre, qui, pour le coup, avait créé le deal avec Raymond Leblanc, fondateur du journal Tintin, pour diffuser les premiers numéros. Et donc, il y avait dans ce collège une tradition comme quoi la bonne bande dessinée était acceptable, même si on ne pouvait pas lire que ça, bien entendu. Et donc, j'étais accompagné par la bande dessinée, tant à l'école que chez moi, et ça m'a aidé à me construire. Et évidemment, après, j'ai lu beaucoup d'autres choses, et des choses beaucoup plus sérieuses, mais je me suis toujours dit que la bande dessinée pouvait être un véhicule de plus que ce que ce n'était dans les années 60 ou 70.
Alors, ne faut pas chercher d'ombre féminine hein, dans Blake et Mortimer, il n'y en a pas.
Dans celui-ci, il y en a particulièrement peu ou pas.
Pas du tout.
Nous avons essayé, André Juillard et moi, avec Jean Van Am, d'ailleurs, et Ted Benoît avant nous, de placer des personnages féminins, de nouveau, parce que... Ça paraîtrait totalement incohérent, même à l'époque, évidemment, qu'il aurait dû y avoir des personnages féminins. Mais la censure et les censeurs qui suivaient de près le journal Tintin, le journal de Spirou, qui était à l'origine très catholique, ne permettaient pas du tout la chose. C'est pour cette raison-là, Jacobs n'était pas du tout du genre Bagel ou que sais-je. Il dessinait très très bien, il a fait beaucoup de dessins de mode avant de faire de la bande dessinée. Il dessinait très très bien les femmes, les hommes, il aimait dessiner le corps humain en général. Quand il a fait Blake et Mortimer, on lui a demandé de faire quelque chose pour un magazine pour les garçons. Un autre magazine qui s'appelait Lean pour les filles. Et tout était encore à l'époque très séparé. Aujourd'hui, on essaye de rassembler un petit peu tout le monde, mais je ne suis pas sûr que le public féminin accroche vraiment à Blake et Mortimer quand il n'y a pas de personnage dans lequel il puisse se projeter.
D'ailleurs, c'est ce que vous avez rectifié hein, en tant qu'auteur de votre premier roman. Ça s'appelle l'expérience Pentagramme. C'est une expérience secrète hein, qui a mal tourné. L'héroïne est effectivement une femme. Ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir ce côté féministe. Yves Sand qu'on ressent d'ailleurs, c'est ce besoin de parler des femmes inévitablement. Qu'est-ce qui a le plus changé entre le petit garçon que vous étiez et l'homme que vous êtes devenu alors aujourd'hui ?
Ce qui a le plus changé, c'est qu'entre le petit garçon et l'homme, il y a eu le papa, et que je suis papa de deux filles, et que fatalement, ma vision du monde a changé du jour au lendemain, comme tous les parents le savent. En une seconde, on sait qu'on n'est plus le même. Et comme j'ai la grande joie d'avoir deux filles, je me suis aussi inquiété en tant que père parce qu'elles étaient des filles et qu'elles étaient soumises à d'autres dangers, en tout cas que les garçons. Et qu'à partir de ce moment-là, j'ai voulu, à travers mes bouquins, écrire pour elles, qu'elles lisent peut-être un jour, mais aussi pour défendre leur cause qui fatalement me tient personnellement à cœur. Je crois que c'est ça qui a fait la bascule et qui a fait que depuis, parce qu'il y a effectivement eu le roman, mais je fais une série qui s'appelle Mademoiselle J, c'est aussi un personnage féminin chez Dupuis. Et j'ai essayé de faire agir tous les personnages féminins, même dans 13. Voilà, ça me tient beaucoup à cœur. Mais dans Blake et Mortimer, de temps en temps, on ne trouve pas la solution. C'est une histoire d'hommes qui se passe entre hommes dans les années 50.
Avec la géopolitique au cœur de cet ouvrage, d'ailleurs, le moment de la fin est très fort. Hein. Blake et Mortimer trinque à cette Grande-Bretagne d'antan qui n'est plus à cause du Brexit. Ils espèrent qu'elle demeure un phare pour les nations démocratiques d'Europe, du monde et jusqu'au-delà de notre galaxie. Évidemment, on y a laissé beaucoup dans cette histoire, mais cet ouvrage reste empli d'espoir et aussi l'occasion de se repositionner sur ce que représente l'Europe. Merci beaucoup, Yves Sand, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.
Merci.
La Menace Atlante est donc disponible aux éditions d'Argo. C'est le dernier album des aventures de Blake et Mortimer. Merci beaucoup.
Merci.